VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 16 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Rosine Munezero pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, un nouveau massacre attribué aux rebelles ADF a fait au moins 38 morts vendredi dans le nord Kivu.
Au Burkina Faso, alourdissement du bilan de l'attaque de dimanche contre des gendarmes dans le nord du pays, au moins 32 morts.
Au Nigeria, 15 personnes abattues dans deux attaques distinctes menées dans l'état de Sokoto, près de la frontière avec le Niger.
Plus de 330 migrants, dont de nombreux ressortissants d'Afrique subsaharienne, secourus au large du Maroc.
Sommet virtuel hier soir entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, un nouveau massacre attribué aux rebelles ADF a fait au moins 38 morts vendredi dans le nord Kivu. À cela s'ajoute une vingtaine de personnes tuées hier dans les provinces voisines de l'Ituri et du sud Kivu. Le point avec Nanit Talani.
Ce bilan a été réévalué à la hausse après la découverte de nouveaux corps sur l'axe Kamwanga-Kibasiamwaga, deux villages voisins, a indiqué hier sur Twitter le baromètre sécuritaire du Kivu. Au moins 5 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans une attaque attribuée à des milices d'autodéfense dans la province du sud de Kivu. Des enfants, des femmes et des vieillards figurent parmi les victimes, a précisé le major Dieudonné Kasereka, ajoutant qu'une douzaine de maisons ont été brûlées. Selon lui, l'armée a riposté lundi matin et libéré des villageois qui avaient été pris en otage. Dans le nord-est en Ituri, au moins 17 civils ont été tués lundi par des miliciens du groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, ont attaqué le village de Tchabusika et y ont tué 17 civils, dont certains ont été retrouvés calcinés dans leur maison, d'après David Bainduka Bamouiga, chef du secteur rural de Baema Irumu en Ituri. Il y a eu au moins 1137 civils tués dans le nord Kivu et en Ituri depuis le début de l'état de siège le 6 mai.
Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque contre le détachement de gendarmes d'Inata dans le nord s'est alourdi. Il s'établit maintenant à 32 morts, 28 gendarmes et 4 civils, selon un décompte rendu public hier par les autorités. Le point avec Abdourahman Dia.
Le gouvernement indique dans un communiqué que ce dernier bilan est provisoire. Un précédent bilan donné dimanche faisait état d'au moins 20 morts, 19 gendarmes et un civil. Le gouvernement précise que 27 gendarmes ont été retrouvés sains et saufs. Le détachement de gendarmerie d'Inata, ville de la région du Sahel et proche de la frontière du Mali, comprenait entre 100 et 150 hommes. Le ministre de la Sécurité, Maxime Koné, avait affirmé dimanche que les gendarmes ont résisté et se sont battus avec bravoure. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un important nombre d'individus armés circulant à bord de plusieurs pick-up et motocyclettes. Il a évoqué de longs échanges de tirs entre les assaillants et les gendarmes. Nous devons rester soudés et déterminés face aux forces du mal qui nous imposent une guerre sans merci, a réagi lundi le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore sur son compte Twitter. Cette attaque est l'une des plus meurtrières contre les forces de sécurité burkinabé depuis le début des actions djihadistes il y a 6 ans.
Dans le nord-ouest du Nigeria, des hommes armés ont abattu 15 personnes lors de deux attaques distinctes menées dans l'état de Sokoto, près de la frontière avec le Niger, a indiqué hier le gouverneur de l'état. Le point avec Nathalie Barge.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des dizaines d'assaillants ont pris d'assaut les communes d'Ilela et de Goronio, tuant 15 personnes, a déclaré le gouverneur de l'état de Sokoto, Aminu Waziri Tambuwal. Depuis septembre, les forces de sécurité mènent des offensives aériennes et terrestres sur des camps de gangs armés dans l'état voisin de Zamfara. Ces bandits, fuyant les opérations militaires, ont établi des camps près de la frontière avec le Niger. notamment à Sokoto d'où ils lancent des attaques contre les communautés. Le mois dernier, ils ont ouvert le feu sur un marché à Goronio, tuant 43 commerçants. Une attaque survenue quelques jours après une autre attaque sur un marché à Sabon Birni, où 19 personnes ont perdu la vie. Lors d'une réunion avec des officiers hier, M. Tambouwal avertit que les bandits étaient en train de se transformer en terroristes. Il a appelé le gouvernement à intensifier les mesures pour enrayer la spirale de la violence.
Nigeria, toujours, la commission chargée d'enquêter sur la sanglante répression en 2020 par l'armée et la police d'un large mouvement de contestation dans la capitale économique a remis hier ses conclusions au gouverneur de l'État de Lagos, a indiqué son bureau. Selon Amnesty International, au moins 10 manifestants désarmés avait été tué par la police, déclenchant l'indignation internationale.
Le bureau du gouverneur n'a pas révélé le contenu du rapport, mais devant la commission, l'armée avait d'abord affirmé n'avoir utilisé que des balles à blanc pour disperser une foule qui avait violé un couvre-feu. Elle a par la suite admis que ses soldats disposaient également de balles réelles.
Toujours au Soudan, un syndicat de médecins pro-démocratie ont dit hier qu'au moins 8 personnes, dont 3 adolescents, ont été tuées par les forces de sécurité dans la répression de manifestations au Soudan samedi, journée la plus meurtrière depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre.
La vice-secrétaire d'État américaine pour les affaires africaines, Molly Fee, en visite dans le pays, a de nouveau condamné la violence exercée contre des manifestants pacifiques selon l'ambassade américaine. La police a nié ces violences, jurant s'être limitée à un usage minimal de la force et n'avoir pas tiré de balles réelles. 23 Soudanais ont été tués depuis le putsch.
Madame Fee, qui quitte Khartoum ce mardi, rencontre de nombreux responsables et plaide pour la libération des dirigeants civil, la réinstallation de M. Hamdok et d'un gouvernement civil de transition, a indiqué l'ambassade.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont eu hier un sommet virtuel très attendu. Monsieur Biden soulignant le besoin de garde-fous pour éviter un conflit entre les deux pays et Monsieur Xi plaidant pour une meilleure communication. Des détails avec Lionel Gahima.
Monsieur Biden a assuré que la compétition entre les deux pays ne devrait pas se transformer en un conflit, qu'il soit intentionnel ou non. Les deux leaders ont eu leurs entretiens au moment où les contentieux s'accumulent entre Washington et Pékin à propos de Taïwan, mais aussi des échanges commerciaux ou encore des droits humains. La Chine et les États-Unis doivent améliorer leur communication et leur coopération, a affirmé de son côté Xi Jinping, qui s'est dit heureux de voir son vieil ami pour la première fois par écran interposé, alors que les deux précédents échanges s'étaient faits au téléphone. « Je suis prêt à travailler avec vous », a poursuivi le président chinois. À Washington, comme à Pékin, on a tenté de tempérer les attentes sur cette discussion qui ne devrait pas déboucher sur des résultats concrets, a averti la Maison-Blanche.
Les États-Unis ont accusé hier la Russie d'avoir mené un tir de missile antisatellite dangereux et irresponsable dans une démonstration de force ayant eu pour conséquence directe de menacer la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. L'agence spatiale russe Roscosmos avait auparavant déclaré ses astronautes hors de danger sans faire mention d'un test de missile.
La présence policière et l'arrestation des mineurs de la dissidence cubaine ont empêché ceux-ci de mener à bien lundi leur manifestation interdite par les autorités qui ont râlé une opération ratée des États-Unis, lesquels ont dénoncé une manœuvre pour faire taire les manifestants pacifiques, notamment à coup d'arrestation d'opposants qui devaient se réunir hier à La Havane et dans 6 provinces.
Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé hier des sanctions financières contre le parquet fédéral du Nicaragua et 9 hauts responsables du pays en riposte au simulacre d'élections orchestrées par le président Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario Murillo lors du scrutin du 7 novembre. Les principaux rivaux de M. Ortega avaient été emprisonnés.
Dans un Dans un climat tendu à Kenosha, dans le Wisconsin, l'accusation et la défense ont bouclé lundi leurs exposés au procès de Kyle Rittenhouse.
La Minute Éco, Nanit Talani.
14 tonnes d'or, de rubis et d'autres minéraux précieux sont sortis clandestinement du Mozambique depuis le début de l'année. Le ministère mozambicain des ressources minérales affirme chercher des moyens de lutter contre l'expansion des réseaux criminels qui violent son territoire et ses ressources stratégiques afin de garantir que ces ressources puissent générer des revenus pour développer les communautés locales. Les sécheresses à répétition et de plus en plus longues et intenses sont une menace pour l'agriculture au Maghreb, affirme l'Institut des ressources mondiales. Des barrages presque à sec, des oliviers centenaires décharnés, le dérèglement climatique a pris des proportions dramatiques au Maghreb au point de menacer la subsistance de millions d'agriculteurs. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye font partie des 30 pays les plus en pénurie d'eau de la planète, selon l'Institut des ressources mondiales. Pour terminer, ici aux États-Unis, le président Joe Biden a promis de tout mettre en œuvre pour inverser la courbe des prix qui ont atteint un sommet en octobre de 6,2% comparé à octobre 2020, du jamais vu depuis 30 ans. Pour sa ministre des Finances, Janet Yellen, supprimer les droits imposés par l'administration Trump sur des produits chinois pourrait y contribuer. Le gouvernement Biden voudrait aussi faire revenir la production aux États-Unis de semi-conducteurs dont la pénurie a entraîné une augmentation des prix.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. On connaîtra ce soir les quatre derniers qualifiés pour les barrages du Mondial à Qatar 2022, zone Afrique prévue en mars 2022. Quatre affiches aujourd'hui aux allures de finale avec le très attendu Cameroun-Côte d'Ivoire dans la poule D. Les deux équipes sont au coude à coude, 13 points pour les Ivoiriens et 12 pour les Camerounais. Les Lions indomptables ont besoin d'une victoire pour finir en tête. Par contre, un match nul arrangerait les éléphants. Le Burkina Faso, deuxième du groupe A, après avoir laissé 2 points face au Niger, a aussi besoin d'une victoire à Blida pour passer devant l'Algérie, qui n'a besoin que d'un match nul pour voir les barrages. La finale du groupe C se jouera entre le Nigeria, qui a évité le piège libérien, et le Cap-Vert, vainqueur de la Centrafrique. Avantage tout de même pour les Super Eagles, qui ont 2 points d'avance sur les Requins Bleus. Et puis, ce sera un duel à distance dans la poule B entre la Tunisie qui reçoit la Zambie et la Guinée équatoriale en déplacement en Mauritanie. Les Aigles de Carthage et le Nsalang National partagent la première place du groupe avec 10 points. Le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Égypte, la République démocratique du Congo et le Ghana ont déjà composté leur billet pour les barrages. Dans la zone Amérique du Sud, le match au sommet de ces éliminatoires oppose ce soir l'Argentine de Lionel Messi à son grand rival brésilien déjà qualifié. En cas de victoire, l'Argentine n'aura au mieux plus besoin que d'un point en 5 matchs pour composter son billet. Au Kenya, Nick Mwandawa, président de la Fédération de football, a été présenté hier au tribunal pour répondre d'accusations de corruption. À la tête de la fédération depuis 2016, il est accusé d'avoir transféré 66 000 euros appartenant à la fédération sur son propre compte en banque sans aucune justification écrite. Le juge a ordonné la libération sous caution du dirigeant qui a passé le week-end en garde à vue en attendant une nouvelle audition demain mercredi. Mwendawa n'a toutefois plus accès au bureau de la fédération et est banni de toute activité liée au football. Selon la ministre des Sports, Amina Mohamed, une enquête menée par le gouvernement a révélé que la fédération aurait détourné certaines sommes versées par l'État et d'autres sponsors. Mwendawa a toujours nié ces accusations et se considère toujours comme président de la Fédération kényane de football. La fédération a été placée sous la tutelle d'un comité par intérim pour au moins 6 mois. Dimanche, la FIFA a menacé de suspendre le Kenya si cette décision n'est pas reconsidérée. Basketball pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Boston et Cleveland, 98 à 92. Washington et la Nouvelle-Orléans, 105 à 100. Sacramento et Détroit 129 à 107, Atlanta et Orlando 129 à 111, New York Knicks et Indiana 92 à 84, Dallas et Denver 111 à 101, Miami et Oklahoma City, 103 à 90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ces dernières semaines, les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, font face à une recrudescence des attaques des groupes armés. La dernière attaque d'envergure a eu lieu dimanche à Inata, dans le nord du Burkina Faso. Au moins 32 personnes ont été tuées, selon le gouvernement. Pour comprendre cette dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste du Sahel.
Durant 4 jours à Ouagadougou, les participants au 9e FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, ont abordé les conditions de travail des journalistes.
Les États sahéliens récoltent leurs inconséquences dans la gouvernance. Et comme vous le savez, ces zones où aujourd'hui sévit l'insécurité grandissante, ces zones-là ont été délaissées depuis un bout de temps par ces États-là. Ça, c'est la première lecture. La seconde, c'est qu'aujourd'hui, la gestion même des forces et des défenses de sécurité, vous savez qu'au Burkina, avec le départ de Blaise Compaoré, il y a eu beaucoup de choses au sein de l'armée burkinabé. Vous avez aussi au Niger, où il y a eu, depuis l'accession du président Issoufou au pouvoir, 10 ans, il y a eu une gestion de l'armée qui dit pas son nom, qui est tout sauf intéressante, parce qu'il y a eu des tentatives de coup d'État. Et vous avez aussi le Mali qui est fragilisé.
Alors, on a Barkhane qui est encore toujours là, hein, même si elle est en train de plier un peu bagage. Pourquoi est-ce que durant toutes ces attaques d'envergure, que ce soit au Niger ou au Burkina, comme on l'a vu ce dimanche, on n'a pas fait appel aux avions Mirage ou aux drones de Barkhane?
Écoutez, les soldats, le problème c'est qu'il y a une intoxication d'abord, il y a une désinformation sur la présence Barkhane dans ces États-là. Deuxièmement, vous avez aussi le comportement du soldat français. C'est ce qui explique vraiment cette méfiance entre les forces de défense et de sécurité sahéliennes et la force Barkhane.
Alors, concernant Inata et l'attaque de ce dimanche, des informations non encore vérifiées disent qu'il y avait un sérieux problème de ravitaillement alimentaire. Et il y a quelques jours, au cadre de l'administration burkinabé, a confirmé que les primes des soldats sur le terrain était détourné par la hiérarchie militaire. Est-ce que toutes ces affaires-là ne contribuent pas à pourrir la situation?
Écoutez, ça nous ramène au détournement massif qu'il y a eu au sein du ministère nigérien de la Défense. Vous savez que ces soldats n'ont pas eu des armes conséquentes pour aller sur les théâtres des opérations. Ça nous ramène aussi au Mali où il y a eu un vaste détournement au ministère malien de la Défense. Et aujourd'hui, ça nous ramène dans la même situation au Burkina.
Et comment sortir de cette impasse-là?
D'abord, lutter contre l'impunité, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que toutes ces armées-là ont subi le poids du politique. L'armée a été politisée. Et mettre les hommes qu'il faut, appuyer ces hommes-là par un renseignement conséquent, un renseignement humain, je l'ai dit, conséquent, et aussi mener des actions de développement, et je pense que le Sahel peut retrouver la paix.
Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste du Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, nombre de sobriquets, dont rats, voyous numériques ou oisifs errants, sont utilisés pour dénoncer une utilisation sinistre de l'Internet et de l'espace numérique. Les autorités indexent notamment un facteur d'oisiveté et de violation morale. Seulement, une agression plus pernicieuse s'opère en sourdine. Elle est subie par les enfants qui souffrent d'addiction à Internet. C'est une dépendance qui a de grands grand risque d'agir sur leur corps, leur esprit et donc leurs études. Les jeunes mamans s'en inquiètent principalement. Certaines d'entre elles, qui pourtant paient la connexion, ont fini par être partagées entre le confort dans leurs activités et l'abrutissement de leurs enfants, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagui.
J'ai fait mes études via Facebook. J'ai fait discuter.
On apprend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, on fait des cours en ligne et discuter avec notre camarade, avec notre ami et notre camarade. Et on peut parler, on peut faire la vidéo avec nos parents.
Je fais des entrées dans YouTube et regarder les vidéos qui sont là, comme le théâtre, comme le FC Barcelone, comme les autres vidéos là.
Leur expression de la langue française n'est pas encore au point, mais ces enfants sont déjà des adeptes des réseaux sociaux, comme bien des jeunes gens de leur génération. Ils sont nés avec, mais ils s'y attachent toutefois à cause des habitudes qu'on leur suggère. L'une d'elles découle de la difficile gestion de la famille par les jeunes mamans. Ces dernières sont souvent prises entre le marteau du travail et l'enclume des obligations maternelles et domestiques. Aïda Ndiaye avoue que cette posture l'oblige à occuper son enfant au support numérique et à Internet.
L'Internet, moi je crois que c'est un mal nécessaire. Quand tu es toute seule dans ton appartement, tu dois éduquer ton enfant, tu dois t'occuper de ton enfant et faire la cuisine, faire le linge et tout. Tu vois que ça pose problème. C'est pourquoi certains parents donnent leurs enfants des dessins animés, poussent à leurs enfants à se concentrer aux dessins animés.
Ce choix des parents à distraire leurs enfants avec Internet provoque souvent une fâcheuse dépendance. Aminata Ndiaye, jeune maman, constate et regrette cette addiction qui touche ses deux neveux dont elle a la garde.
Des enfants qui, même à l'école, sont pressés de rentrer pour pouvoir activer le jeu et pouvoir interagir avec leurs potes en ligne. La maison est toujours remplie de personnes, mais les enfants sont devenus d'une manière, on va dire qu'ils sont socialement coupés, à part l'école. C'est fini. Dès qu'ils arrivent, ils préfèrent communiquer en ligne avec leurs potes sur les jeux vidéo, aller sur TikTok, faire un tour sur Facebook, regarder les derniers potins, que de parler avec les gens qui sont en face d'eux.
Les conséquences de ces habitudes peuvent être très dangereuses de l'avis du docteur Lamine Diouf. Ce pédopsychiatre indique que cette orientation des enfants vers Internet peut avoir des conséquences néfastes sur leur croissance physique et mentale.
Il faut savoir que c'est l'exposition précoce avant 3 ans et excessive, en moyenne 30 minutes, voire une heure par jour, qui rend l'abus des écrans chez l'enfant délétère, nocif sur le plan du développement en premier psychomoteur.
L'espace numérique est un énorme terrain d'exploration et de recherche, mais il n'a pas que ses bons points. Souvent, au détriment des enfants, on note une addiction aux outils digitaux et à l'Internet qui provoque des dysfonctionnements de leur santé physique et surtout cérébrale. Seulement, les parents sont obligés de recourir à ce support numérique pour combler leur absence, faute d'alternatives. C'est peut-être le moment de penser à une politique d'assistance sociale à domicile et dans les entreprises ou de restrictions dans l'usage de l'Internet par les enfants.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les femmes se mobilisent pour créer des activités génératrices de revenus. L'objectif projeté par la majorité des futurs est de constituer des leviers pour l'autonomisation financière des femmes. Voyage dans l'univers de ces femmes qui exercent dans le secteur informel pour se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille grâce aux activités génératrices de revenus. C'est un dossier réalisé par Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Des femmes avec des projets différents, des ambitions différentes, mais un seul objectif. Comment arriver à se prendre en charge et avec leur famille, avec le fonds FACI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame Dominique Ouattara. Aujourd'hui, des milliers de femmes ont réussi leurs activités. Caroline Atta, restauratrice non loin du marché d'engrais, grâce au fonds FACI, son activité se porte bien. Et à Clotilde Goré de renchérir.
J'ai évolué. Voilà, j'ai payé ce magasin grâce à la FACI. J'ai commencé à réaliser.
Tamla Akwa, jeune dame commerçante, est fière de son bilan.
J'ai réussi à grandir, épargner, faire beaucoup de choses.
Mais Mouna Diaby a bénéficié d'un prêt du FACI. Plus d'un an après, son activité de vente de vaisselle s'est vue agrandir.
La première fois, j'avais pris 150 000. Aujourd'hui, j'ai pris 500 000. Donc, je vois que le travail, c'est bien.
Avec ce mécanisme de financement et du refinancement du FACI, nombreuses sont les bénéficiaires qui rêvent de voir leurs activités prospérer et se projeter dans l'avenir. Gisèle Yao.
Actuellement, je veux 2 millions. S'il y a eu les 2 millions, je vais prendre mon propre coin. Je peux faire deux magasins. Un magasin de restauration et puis un autre où je mets paille, mes chaussures.
Du côté de l'ONG RIFA, le réseau ivoirien des femmes pour les actions affirmatives, un fonds de soutien pour les femmes existe, affirme Léopoldine Tizan-Koffi, sa présidente.
Les fonds partent de 100 000 à 500 000. Nous voulons faire en sorte que ces femmes, en remboursant, puissent permettre aux autres d'acquérir aussi des prêts.
Jeanne Dac Loba exerce dans le secteur d'activité de l'Atiké.
J'ai une partenaire avec qui je travaille qui fait l'Atiké déshydratée, qui exporte.
Lopi Louise, couturière de son état, des magasins de prêt-à-porter et des magasins de vaisselle en location.
L'ONG RIFA m'a permis d'agrandir mes activités.
Le FACI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a permis à plus de 125 000 femmes de bénéficier du financement de leurs activités quand le RIFA, le réseau ivoirien des femmes pour les actions affirmatives, donnait de l'espoir à près de 1 500 femmes pour leur prise en charge économique. On peut le dire, l'autonomisation économique des femmes est une réalité en Côte d'Ivoire et les activités génératrices de revenus sont des leviers incontournables pour la réalisation de cet objectif. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la 9e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, a pris fin le week-end dernier à Ouagadougou, la capitale. Étant donné le contexte sanitaire et sécuritaire actuel, cette édition s'est penchée sur la résilience des médias au service des citoyens africains. Des participants sont venus de plus de 20 pays. Compte rendu de notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Durant 4 jours à Ouagadougou, les participants au 9e FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, ont abordé les conditions de travail des journalistes en Afrique, des médias face aux défis sanitaires, sécuritaires, économiques et numériques. Khadidia Fofana est une journaliste venue du Mali. C'est sa première participation au FILEP.
J'ai vu des journalistes qui ont demandé à leurs confrères de se remettre en cause. Parce que le rôle de journaliste, ce n'est pas d'être un mercenaire politique, encore moins d'être un maître chanteur, de vraiment faire preuve de discernement avant toute diffusion de l'information. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment retenu mon attention parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens sont à la course du buzz. Chacun de nous court derrière le buzz. Alors, si le journaliste se prête à ce jeu-là, ça n'est fini de ce noble métier.
Souleyman Braoumarou est un journaliste nigérien.
Ça permet aux participants d'échanger et de voir la situation au niveau de chaque pays. Quand vous prenez aujourd'hui la question sécuritaire, pour celui qui vient du Niger, du Mali, du Burkina, on a la même préoccupation. Peut-être celui qui vient de la RDC ou peut-être du Ghana, en fait, n'a pas une totale connaissance de ce que nous vivons au quotidien. Si je dis nous, c'est quand même les journalistes.
Il y a eu au cours des travaux des recommandations. Des participants à la 9e édition du FILEP ont lancé ce qu'ils appellent l'appel de Ouagadougou. Une invite au chef d'État de la CEDEAO à la réouverture diligente des frontières terrestres avec un dispositif de contrôle sanitaire similaire à celui appliqué dans les aéroports afin d'atténuer la souffrance des populations. Inoussa Ouedraogo, directeur de publication du journal Bendré, membre du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, l'un des coordonnateurs du FILEP.
Je retiens l'appel que les journalistes africains ont lancé au chef d'État de la CEDEAO pour leur demander d'ouvrir les frontières. Parce qu'on a estimé que c'est une façon de restreindre les libertés. Et quand on empêche les gens d'aller et de revenir, on les empêche de se mouvoir, d'exprimer leur liberté. On a demandé donc aux chefs d'État africains d'ouvrir urgemment les frontières, d'autant plus que c'est les populations à la base qui souffrent le plus de ce martyre-là, parce que les grands, entre guillemets, ont la possibilité de voyager à travers les avions.
Le FILEP 2021, ce sont 200 participants venus de plus de 20 pays d'Afrique et d'Europe. selon les organisateurs. L'édition a pris fin avec la remise du prix africain du journalisme d'investigation qui récompense les meilleurs journalistes d'investigation sur le continent. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Rosine Mounezero. À la mise en onde, Lionel Gahima. À la régie, Joubert Altaïb. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.